100% d'Europe, Léa Lisa Vesterov.
Bonjour, les dirigeants européens de plus en plus inquiets, voire désarmés face au comportement de la Turquie ces dernières semaines en Europe et au Caucase. Pour en parler avec nous aujourd'hui, Pierre Razou, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes directeur académique de l'Institut Fondation Méditerranéenne d'études stratégiques, la FMES, à Toulon, et vous êtes spécialiste de la Turquie. Alors la Syrie, la Libye, mais aussi ces dernières semaines, la Méditerranée, le Caucase, Ankara s'active militairement sur de multiples fronts et n'hésite pas à défier les Européens, ses alliés de l'OTAN. En quelques mots, Pierre Razou, comment expliquer cette politique offensive ?
Je crois que le président Erdogan, qui est dans une situation intérieure à la fois compliquée, pour des raisons économiques, pour des raisons politiques, et qui veut absolument rester au pouvoir jusqu'en 2023, date du centenaire de la commémoration du centenaire de la République turque, a besoin finalement de surfer de succès en succès, ou en tout cas de flatter la fibre nationaliste d'une partie de sa population. Donc il a besoin en fait d'ouvrir de nouveaux fronts. Donc il avait ouvert un premier front initialement en Syrie et en Irak, où ses troupes se sont heurtées face aux Russes, face aux Syriens, face aux Iraniens, face aux Irakiens, dans une sorte de statu quo. Donc il a ouvert un nouveau front en Libye, un nouveau front en Méditerranée orientale, et quand en Méditerranée orientale, les Américains ont commencé, et l'OTAN ont commencé à élever un petit peu le ton en disant qu'il ne serait pas de bon ton de sacrifier l'OTAN aux intérêts personnels du président Erdogan, celui-ci a ouvert un nouveau front au Caucase, cette fois-ci, pour questionner directement la Russie.
On va continuer à en parler avec vous, Pierre Razou, tout au long de cette émission. Mais avant, un exemple de ces fronts de tension, c'est, vous le disiez, la Méditerranée orientale, où le pouvoir turc n'a visiblement pas l'intention de calmer le jeu. Avec le retour lundi dernier dans les eaux grecques du navire turc d'exploration gazière Horus Ris, en dépit des protestations d'Athènes et de Nicosie, l'ambition clairement est de raviver les tensions. Alors que recherche Recep Tayyip Erdogan et comment cette dernière poussée de fièvre est-elle perçue dans l'opinion publique turque ? Élément de réponse avec le reportage à Istanbul d'Anandloer.
Assis sur un petit tabouret devant sa boutique d'accessoires de téléphonie mobile, Oğuz, la quarantaine, fait défiler les dernières nouvelles sur son écran tactile. Comme chaque jour depuis plus de deux mois, le vendeur turc se tient au fait du dernier épisode des tensions avec la Grèce dans l'est de la Méditerranée. Oğuz, derrière ses fines lunettes et sa moustache soignée, n'a pas du tout l'air inquiet.
À mon sens, il faut évidemment commencer par négocier. Mais si la Grèce ne comprend rien aux négociations, alors notre président fera le nécessaire pour lui faire entendre raison. Je lui fais confiance.
Une fois n'est pas coutume, Recep Tayyip Erdogan peut se prévaloir du soutien de la plupart des Turcs, de ses partisans comme de ses opposants, dans son bras de fer avec la Grèce. Cela est dû, en partie, au fait que la dispute est ancienne, bien plus ancienne que l'arrivée au pouvoir de l'actuel président en 2003. C'est ce que confirme l'ancien diplomate Sinan Ulgen, fondateur à Istanbul du centre de recherche EDAM.
La politique du gouvernement turc en Méditerranée orientale a le soutien général de la population turque parce que c'est vu comme un sujet lié à la souveraineté nationale et pas du tout comme une sorte d'ambition néo-ottomane.
Réfutant en effet toute accusation d'expansionnisme, la Turquie dit ne réclamer que ce qui lui revient de droit dans le partage des réserves de gaz naturel en Méditerranée orientale face aux revendications maritimes de la Grèce, mais aussi de Chypre, qu'elle juge démesurées. Mais les différends qui opposent ces États ne se résument pas, loin de là, à une répartition mercantile des gisements d'hydrocarbures ensevelis sous les fonds marins. Il s'agit d'abord de régler un litige hérité du siècle passé, dont les nombreux aspects ont fait l'objet ces 20 dernières années de négociations infructueuses entre la Turquie et la Grèce. Selon Sinan Ulgen, la Turquie souhaite deux choses.
Premièrement, elle souhaite démontrer à la communauté internationale, et en particulier à l'Europe, que le plan de la répartition du plateau continental en Méditerranée orientale, tel qu'il est conçu par les Grecs et ses partenaires, c'est un plan qui, du point de vue turc, n'est pas du tout juste.
Ankara rejette notamment toute prétention des îles grecques situées au large des côtes turques à une zone économique exclusive estimant que cela reviendrait à emprisonner la Turquie à l'intérieur de ses rivages. Elle se pose par ailleurs en défenseur des droits de la République turque de Chypre du Nord, qu'elle est seule à reconnaître, face à la République de Chypre, à majorité grecque et membre de l'Union européenne, qu'Ankara ne reconnaît pas. Quant à la seconde demande turque, l'ancien diplomate Sinan Ulgen la résume ainsi.
C'est finalement de forcer le gouvernement grec à négocier directement avec la Turquie sur tous les points de différents. C'est-à-dire que du point de vue grec, la seule chose à discuter au niveau bilatéral, c'est la question du plateau continental. Et du point de vue turc, il y a d'autres disputes comme la militarisation des îles grecques en Égée. Il y a la question des eaux territoriales. Il y a les questions des zones de contrôle aérien.
Le mois dernier, un dialogue semblait s'esquisser entre la Grèce et la Turquie. Disant vouloir laisser une chance à la diplomatie, le président turc Erdogan ramenait au port un navire de recherche gazière déployé dans des zones où la Grèce se déclare souveraine. Ankara et Athènes s'étaient même mis d'accord pour reprendre les négociations interrompues en 2016. Mais alors que tout le monde guettait l'annonce d'une date et d'un lieu pour ces pourparlers, le chef de l'État turc a finalement choisi de faire marche arrière, de rediriger son bateau vers les zones contestées et de reprendre un ton menaçant, estimant que la Grèce et l'Europe n'étaient pas sincères. Même s'il lui donne raison sur le fond, l'ancien ambassadeur turc, une alchéviqueuse, devenue députée de l'opposition, critique la méthode du président turc. Il accuse Recep Tayyip Erdogan d'avoir sciemment attisé les tensions, comme récemment en Syrie ou en Libye, et comme aujourd'hui dans le conflit entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan. Il soupçonne le dirigeant turc de jouer la surenchère nationaliste pour consolider sa base électorale. Cette dernière lui est en effet de moins en moins fidèle, en raison notamment des difficultés économiques.
Le pouvoir s'est rendu compte que dans d'autres crises déclenchées sur la scène internationale, la situation était en train de tourner en défaveur de la Turquie. Il a donc dû se demander quelle autre crise pourrais-je bien réactiver. Le problème, c'est que le parti au pouvoir en Turquie, l'AKP, a pris la mauvaise habitude d'utiliser la politique étrangère à des fins de politique intérieure. Suivant cette logique, il ne serait pas surprenant que l'AKP fasse tout pour que cette crise et les autres perdurent aussi longtemps que possible dans l'espoir de continuer à en bénéficier.
Mais en agissant ainsi dans l'est de la Méditerranée, le président turc s'expose à des sanctions de l'Union européenne qui pourraient intervenir rapidement dès le sommet des dirigeants européens programmé en décembre.
La France et l'Allemagne ont donné jusqu'à ce jeudi à la Turquie pour retirer ses navires sous peine de sanctions. Pierre Azou, vous êtes directeur académique de l'Institut Fondation Méditerranéenne d'études stratégiques. Ces sanctions européennes, ça vous paraît réalisable, réaliste ?
Le paradoxe, en fait, c'est que le président Erdogan sait que face aux États-Unis ou face à la Russie, les présidents russes et américains lui ont fixé des lignes rouges très nettes. Et à chaque fois qu'il les franchit ou qu'il essaye de les franchir, il se fait taper sur les doigts. En revanche, en Méditerranée orientale, face aux Européens, qu'il s'agisse de la Grèce ou de Chypre, là, pour le moment, il n'y a pas consensus pour avoir une position très ferme à son encontre. Et pour des tas de raisons, parce que les uns et les autres se trouvent finalement ou loin, ou se sentent peu ou pas assez concernés. Ceux qui pourraient réellement faire pression sur le président turc, ce sont les Allemands, mais Madame Merkel ne souhaite pas rentrer en choc frontal avec la Turquie pour des tas de raisons liées, elle aussi, à des problèmes de politique intérieure, du poids de l'AFD chez elle, du poids de la communauté turque chez elle, etc., ce qu'on peut éventuellement comprendre. Donc, finalement, les Grecs, les Chypriotes, les Français et les Italiens qui les soutiennent du bout des lèvres se retrouvent souvent bien seuls. Et ce que disait très bien l'un des intervenants, c'est que le président Erdogan est assez fort pour trouver les sujets fédérateurs chez lui. Oui. Donc on voit bien que en Libye, en Syrie, en Irak, une partie de la population turque se demande pourquoi il faut aller se battre là-bas. Par contre, dès que le pouvoir turc agite le dossier arménien, grec ou demain peut-être chypriote, on ne sait jamais, en annexant par exemple Chypre du Nord, alors là évidemment il est certain de faire carton plein et d'avoir le soutien d'une très grande majorité de sa population.
Oui, alors vous faites référence à cette stratégie offensive vis-à-vis de la Grèce et de Chypre. Est-ce bien, comme le dit ce diplomate dans ce reportage, pour faire oublier finalement les problèmes économiques de son pays ?
Oui, ça en fait très largement partie. La Turquie aussi cherche finalement à sortir de sa dépendance énergétique qu'elle a actuellement vis-à-vis de la Russie, de l'Iran, de l'Azerbaïdjan. Donc évidemment, elle cherche à multiplier les opportunités. Tout ce qui compte pour lui, c'est d'avoir des succès, que ce succès soit politique, géopolitique ou économique. Ça lui permet finalement d'accroître sa durabilité.
Mais est-ce que cette stratégie du tout militaire n'est pas risquée? Je pense aux problèmes de la vie quotidienne, le chômage, l'inflation qui grimpe en Turquie. Et puis, ces dépenses militaires font enfler la dépense publique.
Oui, mais je crois que de ce côté-là, il est prêt à accepter le risque d'un affrontement. Donc, dans sa logique à lui, quelque part, il va jusqu'au bout. C'est-à-dire qu'il est prêt à défier les uns et les autres. Sachant que si le gant est relevé, il est prêt à aller jusqu'à l'accrochage, voire plus que l'accrochage, quitte à subir des pertes. Mais encore une fois, il est dans une logique politique et géopolitique, pas dans une logique humaniste, si vous voulez.
Au cœur de cette rivalité entre ces deux États membres de l'OTAN, la Turquie et la Grèce, il y a ce gaz naturel découvert dans la zone il y a quelques années. Et la petite île de Castelorizo en est un peu le symbole. C'est 10 km de rochers pour quelques 300 habitants à l'extrême orient de la Grèce empêchent théoriquement la Turquie d'exploiter l'espace maritime alentour et notamment les gisements d'hydrocarbures. À Castelorizo, dont l'histoire est jalonnée par la domination de nombreuses nations étrangères, les craintes ont tendance à rester feutrées, mais fin septembre, un drone venu couvrir un immense drapeau grec bleu et blanc gravé dans la roche, d'un rouge vif semblable à la couleur du drapeau turc, a rappelé que les contentieux territoriaux actuels sont loin d'être réglés. Je vous propose d'écouter le reportage de Joël Brunner sur cette petite île.
Oscar du meilleur film étranger en 1992, le film Mediterraneo démarre sur un bateau qui transporte une poignée de militaires italiens. Direction l'île grecque de Castelorizo, au cœur de la Seconde Guerre mondiale. Et à en croire les premiers mots du long métrage, la valeur géopolitique de l'île semble à l'époque particulièrement limitée.
On nous envoie en mission à Castelorizo, une île perdue de la mer Égée, la plus petite et la plus lointaine. Une île qui n'a absolument aucune importance stratégique.
Aujourd'hui, tout a changé. Alors qu'Ankara convoite l'accès aux eaux avoisinantes, la position frontalière de Castelorizo, dernière île habitée aux confins de la Grèce, est plus sensible. Seul un îlot se situe plus à l'est. Comme l'indique depuis son bateau le capitaine Diamantis Karavelatsis, à la tête d'une petite entreprise de tourisme baptisée Visite Castelorizo.
L'île que vous voyez là-bas, c'est l'île la plus orientale de la Grèce, l'île de Strongyli. Elle est située entre Castelorizo et Chypre et elle marque la fin du territoire grec.
De l'autre côté de l'île, depuis ce même bateau, ce que l'on voit surtout, ce sont les côtes turques à proximité immédiate et qui s'étendent à perte de vue. L'île grecque habitée la plus proche se situe, elle, à plus de 4 heures en ferry de là. Une proximité qui, pour le capitaine de bateau, n'a rien de menaçant en soi.
Depuis que je suis tout petit, je connais des Turcs qui vivent de l'autre côté, dans la ville de Kash. Habituellement, chaque été, ils viennent soit pour les vacances, soit pour passer une journée sur l'île, et pourquoi pas boire un petit ouzo. Il n'y a pas de différence entre nous. Ils vivent du tourisme, et nous aussi, nous vivons du tourisme. Donc il n'y a rien en soi qui nous divise.
Les éléments de la discorde se situent en réalité au niveau politique, plutôt éloignés de la vie quotidienne des habitants de la petite île. Malgré ses 89 ans, Maria Lazaraki s'active dans un restaurant familial qui donne sur le port de l'unique village de Castelorizo. Un port qui est la Turquie pour seul horizon. Pour elle, le seul problème, c'est le président turc et la rhétorique belliqueuse dont il abreuve son opinion publique.
Cela fait des années qu'il parle de guerre ou de conflit. Vous voulez mon opinion ? C'est un idiot. Les Turcs n'en veulent pas, absolument pas. De plus, la femme de notre Premier ministre a des racines à Castelorizo. Nous, nous n'avons peur de rien. Avant le Covid, les Turcs nous apportaient tout ce que nous voulions et pour pas cher. Des tomates, des oranges, des figues. Les femmes d'ici allaient aussi s'acheter des vêtements là-bas, et là encore, pour un bon prix. Ces Turcs sont de bonnes personnes. De bonnes personnes, comme nous.
Des tensions à Castelorizo, l'aïeul en a vu d'autres. Elle qui a notamment connu la Seconde Guerre mondiale, la domination britannique et l'exil des habitants vers Chypre et la Palestine pour échapper aux bombardements allemands. Mais les visiteurs, eux, ne sont pas forcément accoutumés au tumulte. Pantassis Oulis, ex-professeur d'université, rapporte à l'incident de la fin juillet.
We were swimming at St. George of the Island. On nageait ici vers l'îlot Saint-Georges. On passait un moment agréable lorsqu'un avion militaire est passé en franchissant le mur du son. Dès le lendemain, une centaine de touristes a quitté l'île. Ça a eu un gros impact puisque cela correspond à l'équivalent d'un tiers de la population de Castelorizo. Cet été, à cause du Covid, nous avions déjà moins de touristes et donc même cette minorité-là est partie. Pour nous, ces avions, cela n'a rien de nouveau, donc nous avons juste continué à nager. Mais les touristes, eux, ils ne sont pas habitués.
À Castelorizo, Pontassisoulis vient par ailleurs d'ouvrir un musée un peu particulier, celui du casse-tête. Plus de 500 objets sont exposés ici, dont certains sont ses créations personnelles. Pour décrire ses jeux de patience en les triturant, l'homme est intarissable. Même s'il semble chercher à se rassurer, l'ancien professeur veut croire, comme pour ses casse-têtes, que les tensions avec la Turquie peuvent trouver une solution harmonieuse.
Le fait est que si un incident militaire devait se produire, il aurait lieu en mer, pas ici. Mais j'espère que cela n'arrivera pas. Parce que s'il y a une chose que j'ai appris de mon père, c'est que dans une guerre, il n'y a pas de gagnant. Or, certains dirigeants souhaitent visiblement faire renaître l'Empire ottoman. Qu'ils ouvrent les yeux, c'était il y a 200 ans, bon sang.
Le mathématicien n'est pas seul à espérer un avenir apaisé. Les défenseurs de l'environnement sont ainsi sceptiques face aux recherches d'énergie fossile mises en avant par la Turquie pour justifier ses manœuvres en Méditerranée orientale. Et à Athènes, certains diplomates grecs considèrent d'ailleurs que le discours énergétique soutenu par Ankara sert essentiellement de prétexte aux visées avant tout expansionnistes du président turc.
Pierre Azou, vous êtes directeur académique de l'Institut Fondation Méditerranéenne d'études stratégiques basée à Toulon. Ces réserves gazières dont il est question dans ce reportage, c'est un enjeu important pour la Turquie ?
C'est un enjeu important, bien sûr, parce que ça lui permet ou ça peut lui permettre de réduire sa dépendance énergétique.
Oui, la Turquie importe 90% du gaz qu'elle consomme.
Oui, par rapport à des pays comme la Russie, l'Iran ou l'Azerbaïdjan. Mais je crois aussi qu'il y a la dimension symbolique. La marine turque et les Turcs veulent leur accès à la mer, j'allais dire, à tout prix, et quitte à provoquer des incidents. Et c'est bien ça qui est le problème, c'est que, puisque nous sommes dans une émission qui parle d'Europe, je crois que le problème, c'est que les dirigeants européens sont habitués des rodomontades de M. Erdogan, mais c'est pas tellement ça qu'ils craignent. Ce qu'ils craignent surtout, finalement, c'est une erreur de calcul de la part du président turc, qui finalement se méprenant sur la réaction des uns ou des autres, ou voire même la réaction de l'OTAN ou des États-Unis, pousserait le bouchon trop loin et finalement entraînerait son pays et ses voisins et peut-être la Grèce dans une escalade plus ou moins incontrôlée.
Comment sortir de ce bras de fer, selon vous ?
Je crois que on voit bien que la question a été fortement personnalisée. Que ce soit du côté des dirigeants européens ou de certains des dirigeants européens ou du côté du président Erdogan, c'est devenu une affaire personnelle. Donc quelque part, pour faire baisser la tension, il faudrait que la diplomatie ou les diplomates des deux côtés reprennent un petit peu le flambeau, que tous les gens qui peuvent se parler se reparlent dans des cercles divers et variés, dans des centres de recherche, via les journaux interposés. Mais le problème, une fois encore, c'est qu'à partir du moment où vous avez un pays, enfin dans le cas de la Turquie, où finalement tout le monde a peur du président, évidemment, il est très compliqué de s'engager dans des pourparlers, où finalement on voit bien que les diplomates, par exemple, vous diraient tout le temps, bah écoutez, nous on veut bien, mais il faut qu'on ait l'aval de notre président. Donc là, donc je pense qu'il faut dépersonnaliser cet affrontement.
Merci Pierre Azou d'avoir été avec nous. Je le rappelle, vous êtes directeur académique de l'Institut Fondation Méditerranéenne d'études stratégiques basé à Toulon. Merci.
Merci beaucoup.
Accent d'Europe à la réalisation Victor Hull. Vous retrouvez le podcast de l'émission sur RFI.fr ou sur votre plateforme d'écoute préférée. À bientôt.